l'extérieur, il veut chercher des gens. Et donc, si vous faites de la formation de disciples à Villars, vous prenez le risque énorme que des gens quittent Villars pour aller s'engager là où Jésus les appelle. Est-ce que vous êtes prêts à former des disciples? Ouh, c'est dangereux ça. Quand j'étais tout jeune, je crois que j'avais 12 ans, j'ai pris conscience qu'il fallait envoyer des gens dans la mission. Et puis j'ai dit, Jésus, envoie des moissonneurs dans la moisson. Et Jésus m'a envoyé. Il y a des prières qui sont dangereuses. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à aller faire des disciples ailleurs, n'est pas appelé à être envoyé ailleurs, mais tout le monde est appelé à servir Jésus-Christ là où il est. Là où vous êtes, dans votre famille, dans votre travail, dans votre voisinage, dans votre club de sport, dans vos loisirs, dans vos vacances. Je me rappelle, j'étais à Rolla en vacances avec ma famille, et puis je suis allé au petit magasin chercher du pain. Et j'ai mis beaucoup de temps à prendre du pain, en fait, parce qu'au moment où j'arrive dans le petit magasin, le gars qui est propriétaire du magasin m'a vu arriver, et puis on se connaît, et il a fondu en larmes en me voyant, c'était super honorant pour moi. Il s'est mis à pleurer, et puis je dis, ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive, il y a un problème? Et puis il dit, il faut qu'on parle, je dis, ok. Donc il a appelé sa femme pour qu'elle vienne prendre la caisse, on est monté dans son appartement, et il m'a vidé son cœur de tout ce qu'il y avait sur lui, quoi, qu'il habitait, problème dans le village, etc. Et j'ai fait là, relation d'aide, quelque part, avec lui, improvisée, complètement improvisée. Et Jésus était là. Et quand je suis revenu une heure et demie après avec mon pain sous le bras, mon fils m'a dit, mais t'as fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que t'es loin. Puis j'explique ce qui s'est passé. Puis il me dit, mais alors il faut être tout le temps prêt. J'ai dit, oui, si t'es disciple, il faut être tout le temps prêt. Parce qu'à un moment donné, Jésus aimerait que tu fasses quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Un disciple, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui fait une action d'évangélisation une fois par année. C'est quelqu'un qui est tout le temps disponible pour Jésus. Tout le temps. Amen. Pourquoi est-ce qu'on parle d'envoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Eh bien, parce que c'est une réponse de la part de Dieu à quelque chose de complètement fou. Un truc incroyable. Et on va lire cette chose-là. C'est le Nico Climbing Church qui va lire cette chose-là.
C'est dans Genèse 3, verset 1. Ah, 6, c'est juste? 10, pardon. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Mais vous n'en mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent, loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. »
Est-ce que vous imaginez un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là? J'aimerais lire un autre texte qui est dans Colossiens 1, verset 16, et qui dit ceci. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Pendant longtemps, je lisais ce texte de Colossiens en me disant que c'était au nom de Jésus que tout était créé. Pour lui, par lui et en son nom. C'est pas ce qu'il est écrit, mais c'est comme ça que je comprenais. Puis un jour, quelque chose m'a sauté à la figure comme un flash, un truc tout simple. J'étais dans les rois et puis je lisais Salomon qui est en train d'inaugurer son temple. Il fait tout un ramdam, pas possible pour inaugurer ce temple. Puis tout à coup, il fait une prière et au milieu de sa prière, il dit « Tonnerre, mais quelle agnaffe ! C'est complètement idiot ce que je suis en train de faire. Comment le Dieu Tout-Puissant qui habite tout le ciel peut venir dans ma petite baraque à moi ?» Traduction française très très courante. Littéralement, « Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Et en lisant ça, tout à coup, j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais c'est si les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, ça veut dire qu'il remplit tout. Ok ? Si Dieu est infini, eh ben il est infini. Il ne peut pas y avoir quelque chose d'à côté de Dieu, sinon il est fini sur cette chose-là. Il bute contre. S'il est infini, il remplit tout. Vous me suivez ? Ok. Donc si Paul dit aux Colossiens, et il le dit aussi aux Éphésiens au passage, que c'est en lui que Dieu a tout créé, ça veut dire qu'il l'a fait en lui, à l'intérieur du dedans de lui. Ok ? Il ne peut pas le faire à côté s'il remplit tout, il l'a fait forcément en lui. Et tout à coup, ça donne un autre relief à ce passage de la Genèse. Parce que lorsque l'homme, en mangeant du fruit défendu, a dit non à Dieu, et oui à l'autorité de Satan sur lui, il s'est coupé du Dieu de la vie, on est d'accord ? Il est entré dans la mort et la mort est entrée en lui. Il s'est soumis à Satan. Si il s'est coupé de la vie et qu'il est à l'intérieur de Dieu, il est devenu un corps étranger dans le corps de Dieu. Et moi, de ma petite expérience, quand je me plante une belle écharpe dans la main, c'est-à-dire quand un corps étranger entre dans ma main, un, ça fait mal, deux, ça a tendance à infecter. Et je crois que c'est ce qui se passe avec Adam et Ève au jardin d'Éden. L'homme est devenu un corps étranger qui a tendance à faire infecter quelque chose en Dieu. Et Dieu hurle. Et Dieu crie. Et Dieu dit « Où es-tu ?» On lit ça comme si on lit dans le 24 heures. Une petite annonce. Dieu appela l'homme et lui dit « T'es où ?» Mais Dieu joue pas à cache-cache, hein. Quand Dieu dit quelque chose, il veut faire saisir quelque chose, il veut faire comprendre quelque chose. Et là, c'est un déchirement qui se passe, c'est un cri qui traverse le ciel, qui Dieu hurle sa douleur. Il dit, mais où es-tu l'homme? Où es-tu toi que j'ai fait? Où es-tu celui qui me représente? Où es-tu mon ami, mon amour, celui que j'aime, que je veux? Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cri de fou qui traverse le ciel. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne peut pas faire autre chose que d'aller chercher l'homme. Chercher l'homme. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Vous entendez le battement du cœur de Dieu ? Il fait ce bruit-là. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Et il bat pour l'homme. Parce qu'il y a une douleur terrible qui le déchire. Il ne peut pas faire ça autrement. Ça sort de lui. Il ne peut pas vivre sans l'homme. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Et comme il n'arrive pas à se faire entendre parce qu'il y a de la friture sur la ligne, alors il envoie des patriarches qui vont en son nom, il envoie des prophètes remplis du cœur du Père qui est en lui et qui vont vers les gens pour dire « Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ?» qui cherche les hommes. Il fera tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, mais il va chercher les hommes jusqu'au bout de sa vie. « Je veux chercher les hommes. » Et comme les hommes, ils ont de la peine à comprendre, ils ont même tué des prophètes, alors il dit « Je vais aller en vis-à-vis, je vais descendre, je vais être avec eux, on va être en côte à côte, on va marcher ensemble, on va voir ensemble les choses. » Et que Jésus, il est venu, il a fait quoi, Jésus ? Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous entendez le cœur du Père ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Mais ce n'était pas assez. Parce qu'il y a quelques gens qui sont devenus disciples, qui ont reçu ce cœur du Père en eux, mais quelques gens. Il faut aller plus, beaucoup plus. Il faut tout, il faut le monde, il faut que tout le monde vienne. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il souffle sur les disciples. Regardez dans l'évangile de Jean, c'est juste fou, quoi. Chaque fois que Jésus parle du Saint-Esprit ou parle de les envoyer, il met les deux choses ensemble. Je vous envoie et il souffle sur eux, de son esprit. Dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Allez, vous recevez le cœur du Père en vous, ce cœur qui dit « Où es-tu ? où es-tu ? Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller. C'est le cœur même déchiré du Père qui a passé par Jésus, qui passe dans l'Esprit, qui vient dans l'Église, en vous. Si vous avez ce cœur-là en vous, laissez-le battre. Parce qu'il veut chercher, il veut rejoindre, il veut aller vers les autres. C'est pour ça qu'il est chez vous, cet Esprit-là. Parce qu'il veut rejoindre les autres. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? C'est ça le battement du cœur. Et c'est pour ça qu'il y a un appel et un envoi. Vas-y. Tu es la réconciliation du Père. Il y a quelques temps, on est allé grimper. Et puis, Nico était loin dans les voies de plusieurs longueurs. Gabi était au pied des voies, s'occupait de Lisa, qui faisait deux fois moins de la hauteur de ce qu'elle a maintenant. C'était l'année passée. Et puis, moi, j'étais aussi en bas des voies. Et puis, tout à coup, il y a un couple qui vient, qui passe, qui revient d'une voie. Ils avaient leur matériel, machin, qui pointait dans tous les sens. J'ai dit, salut, ça joue ? Ouais, ça joue, super, cool, tu reviens d'où ? Ah, ben, on a été faire telle et telle voie. Ah ouais, excellent, c'était comment ? Ah ben, c'est ça, tel niveau de grimpe, machin. Puis on commence à parler grimpe, on commence à parler matériel, voilà. Et puis, à un moment donné, je ne sais plus où j'en suis dans mes notes. Voilà, à un moment donné, le gars, il me regarde, puis il voit sur mon gilet écrit « Climbing Church ». Il dit « Ah, ouais, Climbing Church, c'est rigolo, ça, c'est quoi ? C'est une école d'escalade ?» Je dis « Non, c'est une église qui grimpe. » « Une quoi ?» Je dis « Une église qui grimpe. » Il dit « C'est quoi, ça ?» Puis j'explique le concept. Puis il me dit « Bon, bah moi, je suis français, donc moi, je connais que l'église catholique. J'ai jamais vu une église qui grimpait. C'est... Bon, je suis pas dans l'église. Moi, j'ai fait mon caté, c'est tout. » Je dis « Ah, ok, d'accord. Alors, on commence à parler de Jésus. » Puis lui, il me ramène sur l'église catholique. Alors je le ramène sur Jésus parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Église n'a jamais sauvé quelqu'un, mais Jésus, oui, pas mal. Donc je repars sur Jésus et hop, il repart sur l'Église catholique. Je repars sur Jésus, il repart sur l'Église catholique. Je dis dans mon cœur, je dis Jésus, on va jamais y arriver, quoi. Il faut faire quelque chose. Là. Il faut que quelque chose se passe si tu veux que je puisse lui parler. Et puis à ce moment-là, le gars, il regarde sa compagne et puis il dit, elle veut pas me marier. Il y avait aucun rapport avec ce qu'on parlait. Aucun. Dit, elle veut pas me marier. Et puis moi, dans ma tête, ça fait ting-ting. Jean 4, la femme samaritaine. Ça vous dit quelque chose ? Au bord du puits, Jésus aimerait parler à cette femme, la faire passer dans le niveau spirituel, le cœur du Père. Et il n'arrive pas. Elle est tout le temps dans sa question de flotte, de bidon, de profondeur du puits, t'as rien pour puiser, machin et tout. Jésus n'arrive pas à lui faire passer à autre chose. Et qu'est-ce que Jésus lui pose comme question ? Va chercher ton mari. Va chercher ton mari, elle veut pas me marier. Moi, ça fait ting-ting. Et à ce moment-là, je savais que Jésus voulait dire quelque chose à cette femme, mais je savais pas quoi. Donc j'ai fait 2-3 gags. Et puis après, j'ai dit, bon, sérieusement, enfin, ça me regarde pas. Mais tu me dis que ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, vous avez déjà 2 enfants, vous grimpez tout le temps ensemble, à voir, vous aimez tout plein, pourquoi tu veux pas le marier ? Et puis là, elle me regarde. Tout à coup, il y a ses yeux qui commencent à s'embrumer. Les larmes qui viennent, et puis elle me dit, mes parents sont divorcés, ma meilleure amie s'est divorcée, je veux pas que ça nous arrive. Je lui dis, tu te rappelles de ce qu'on a parlé avant, Jésus ? Jésus, il est venu exprès pour des situations comme ça, parce que toute ta vie, tu vas porter la faute de tes parents. Toutes tes décisions pour ton couple vont être influencées par le fait que ton papa et ta maman sont divorcés. T'es libre de prendre tes décisions ? Il dit, ben non. Jésus, il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, des gens comme toi. T'aimerais que Jésus intervienne dans ta vie puis guérisse quelque chose dans ton cœur ? Il dit, ouais, j'aimerais beaucoup. Je dis, ben on peut prier si tu veux. On peut lui demander qu'il vienne faire ça. Puis là, elle regarde la falaise, elle regarde la forêt, là, puis elle dit, ici ? Oui, ici, ou d'autres, pourquoi pas ? Elle hésite, et puis là, c'est son ami qui rigole. Et puis il dit, la connaissant, elle ne voudra pas faire ça ici, mais chez elle, dans sa chambre. Je dis, mais aucun souci, tu peux faire ça toute seule dans ta chambre, tu fermes ta porte, un endroit où tu peux parler à haute voix, toute seule, sans qu'on te prenne pour une dingue. Et puis je te donne juste l'adresse, parce qu'il y a plein de trucs dans le monde spirituel, mais il y a un seul Jésus-Christ. Donc l'adresse, c'est ça, Jésus-Christ. Puis après, tu dis tout ce que tu veux, ça arrive à la bonne place, ok ? Ok, d'accord. Et puis à ce moment-là, elle réfléchit, elle regarde son ami, puis elle dit, on dirait Martin. Puis alors là, je dis, oui, c'est qui Martin? Puis elle m'explique qu'en fait, ils ont un ami qui est un peu évangéliste, bizarre, qui leur a déjà parlé de Jésus plusieurs fois. Et je parle la même chose que ce fameux Martin. Il dit, tiens, c'est marrant. Puis après, elle me regarde, puis elle dit, mais depuis qu'on a commencé à parler, il y a une paix incroyable qui est venue ici. Je lui dis, mais c'est ça, Jésus. C'est comme ça qu'il montre qu'il est là. C'est Jésus qui est là, simplement ça. Il vous aime. Elle dit, ok, d'accord. Elle est repartie avec une Bible de la montagne, sous le bras, parce qu'elle n'avait pas de Bible. Puis ils sont partis. Vous entendez le cœur du Père qui est là. Où es-tu? Où es-tu? Vous entendez ça? Le Père veut tellement être en lien avec ce couple-là, tellement, qu'il a envoyé un Martin pour aller causer avec ce couple. Et puis ils sont peut-être un peu durs d'oreille, donc il envoie un Climbing Church causer avec ce couple-là. Puis peut-être d'autres personnes, mais il va peut-être envoyer encore 40 000 personnes s'il faut. Mais il veut tellement les rencontrer. Il veut tellement vivre avec eux. Où es-tu? Où es-tu? Ça, c'est le cœur du Père. Climbing Church, c'est juste ça. Hein. C'est juste une équipe un peu timbrée qui va grimper puis qui dit à Jésus, si tu veux, on est là. Alors des fois, on grimpe et puis c'est super et on n'a aucune relation. Et d'autres fois, on ne grimpe pas beaucoup et on a beaucoup de relations. Aucune idée, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais on aimerait juste être disponible pour Jésus. Et pourquoi au niveau de la grimpe? Ben, parce qu'on grimpe. Parce que c'est là qu'on est. On serait banquier, on aurait fait ça, une banking church, je ne sais pas si ça existe. Mais être là, c'est tout, c'est simplement ça, quoi. Jésus nous envoie là où on est déjà. Alors ce matin, on va prier pour envoyer Nico et Gabi, Elisa dans le pack, pour vivre avec votre appui ce service pour Jésus à travers un outil qui s'appelle Climbing Church. Mais c'est juste un outil. La vision, c'est Jésus. Et nous allons prier pour eux. Et j'aimerais juste vous dire que dans ce genre de relation, c'est tellement important de savoir que derrière, il y a une église qui soutient, qui prie, qui se bat spirituellement pour que quelque chose passe. Donc la prière, c'est pas juste « allez, on y va, hop, les rouges sont loin ». C'est pas ça. La prière, c'est une attestation que vous êtes derrière eux dans ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas partis parce qu'il y a un nouveau truc sympa. Ils partent parce qu'ils sont appuyés par vous pour aller mettre le royaume de Dieu chez les grimpeurs. Ça a une autre dimension. Et c'est super important, dans le terrain, quand on est là en relation avec des gens qui vivent des trucs de fous des fois, puis qui nous partagent des trucs complètement dingues, c'est super important de savoir que derrière, il y a une pétée de gens qui prient pour nous. Vous n'imaginez pas ce que ça fait. C'est juste énorme. Donc votre prière de ce matin, ce n'est pas une petite priorité. Il y a quelque chose de super profond qui se passe là. Et j'aimerais juste vous laisser cette question, puisque Aurélien l'a aussi introduite. Dans le fond, est-ce qu'on n'est pas tous envoyés par Jésus? Est-ce que l'Esprit Saint habite en vous? Est-ce que l'Esprit Saint habite en vous? Si oui, vous entendez son battement de cœur. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ça, c'est l'envoi. Amen.
Merci. Alors, je nous laisse juste un petit moment que chacun puisse aussi respirer, manger aussi ce qu'il a entendu et puisseront le prendre en soi. Donc, on prend encore 2 minutes comme ça où vous pouvez vous poser encore cette question-là et puis. Et puis vous accrochez à Dieu là-dedans. Nicolas, Gabriel, je vous invite à me rejoindre. On va vivre un beau temps aussi, on va pouvoir vous entendre et puis ensuite on pourra vous entourer. Alors si vous voulez venir avec Lisa, bienvenue. Et puis, tu peux mettre l'autre, voilà. Comme ça, ça te donnera un petit support si tu veux juste témoigner un tout petit peu de ce que vous vivez, ce qui vous anime. Et je souhaite que vos plus gros problèmes soient les nœuds et qu'entre vous, ce soit toujours fabuleux. Donc volontiers, si vous pouvez nous témoigner un petit peu justement de ce que vous vivez. Et puis...
Donc vous voyez, là, c'était assez exceptionnel. On était 10 sur le même relais. On tisse des liens, hein, je veux dire, c'est non négligeable. Pour la petite histoire... Ça a été compliqué de descendre, un petit peu bricolé, mais ça a passé. Bref, je ne vais pas vraiment vous dire ce que c'est que la Ming Church. On vous a déjà dit, vous avez compris le truc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'ai trouvé que ce que Stéphane a partagé est un excellent exemple. L'histoire qu'il a racontée, c'est un excellent exemple de ce qu'on veut vivre et ce qu'on vit dans ce Climbing Church. Les gens qui sont là, il y en a qui sont venus parce qu'on faisait de la grimpe, puis ça les a motivés. Il y en a qui sont venus parce qu'on faisait de la grimpe et qu'on avait un partage autour de Jésus, ils sont venus pour ça, ils sont venus parce qu'il y a les deux choses. Donc finalement, ça s'adresse à différents publics, j'ai envie de dire. Mais comme nous, on aime grimper, pourquoi est-ce que nous, on est dans le Climbing Church? Parce qu'on aime grimper, on aime être dehors, on aime être en montagne. Puis les gens qu'on veut rencontrer, c'est des gens qui aiment grimper et puis qui aiment être en montagne. Mais la différence, c'est que nous, c'est un outil. Nous, on aime grimper parce qu'en fait, c'est juste génial d'évoluer dans la création de Dieu, dans ce terrain de jeu incroyable. Puis on aime tellement Jésus qu'on a envie de le partager aux gens qui aiment aussi grimper. Puis c'est en fait ça le pourquoi nous on y est, quoi. Puis je pourrais dire plein de choses, mais Gabi, elle a écrit un chouette témoignage, un chouette texte par rapport à ça. Puis je trouve que c'est juste beaucoup plus parlant que mon blabla.
Moi, je ne suis pas capable d'improviser comme d'autres. Alors du coup, j'ai écrit ce que je voulais vous dire. Et puis le verset que j'avais en tête, c'est « Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. » Et puis, ce qui est dit un peu plus loin, c'est « Qui observe le vent ne sème, qui regarde les nuages ne moissonne pas. Ainsi, tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu, lui qui fait toutes choses. » Voilà. En été 2015, quand Stéphane nous a sollicité pour faire partie du team, j'étais motivée par l'envie de faire confiance à Dieu et marcher à sa suite. Ainsi, sa demande, elle tombait à pic. Et puis si souvent on trouve des excuses pour dire qu'on n'est pas prêt, et puis moi à ce moment-là j'étais très consciente de ne pas être parfaite, et puis très loin de l'idée de moi telle que j'aspirais à être. Mais là j'ai choisi de quitter ce focus sur mes défauts en me disant je veux être à sa suite. Je crois que ça ne m'a pas métamorphosée. Je ne suis pas plus parfaite qu'avant. On ne fait pas des choses particulièrement grandes ou bonnes, mais ce qui est beau, c'est que je vois Dieu à l'œuvre. Et puis ça me procure beaucoup de joie. Et puis j'ai juste envie de vous dire, mais pourquoi pas vous? Dans le sens, Dieu, il n'attend pas à ce qu'on soit parfait. Il attend juste à ce qu'on ait soif de lui et puis de le voir à l'œuvre. Voilà, c'est tout ce que j'avais juste envie de vous partager.
Pour clore juste par rapport à ce qu'on voulait vous partager, c'est nos joies du moment dans ce projet et puis ce qu'on vit avec Jésus. C'est vrai qu'on ne grimpe pas mieux maintenant qu'avant. Je veux dire, je n'ai pas progressé, je ne fais pas du 7+, alors qu'avant j'ai du 5, ça n'a rien changé. Mais par contre, l'objectif est différent. Ce n'est pas forcément arriver en haut, mais c'est de faire des liens. Des fois, c'est un peu la salade, mais on fait des liens quand même. Notre naissance, nos joies actuelles, c'est, vous avez peut-être vu que dans le 24 heures, il y a eu un article sur Climbing Church, vous avez peut-être entendu à haute fréquence, et c'est juste incroyable de voir les médias qui expliquent ce qu'on fait sans trouver tout de suite la petite bête pour dire que c'est un peu n'importe quoi. Et de voir, waouh, en fait, ouais, on fait ça, puis une espèce de reconnaissance, et c'est juste, j'ai plein de collègues qui savent, j'ai les gros autocollants Climbing Church sur la voiture, qui m'ont jamais parlé de ça. Puis moi, je ne vais pas leur parler de ça. C'est mes collègues, ils ne font pas tous de l'escalade, c'est pas grave. Et là, ils m'ont dit « Ah, j'ai vu un truc sur toi là dans le journal. » Je dis « Ah !» Puis là, on discute. Pas beaucoup, pas longtemps, parce que ça sonne, il faut aller bosser. Mais juste 2 minutes. Ça, c'est une joie incroyable. Il y a un intérêt, les gens sont curieux. En fait, on suscite des questions. Alors, quand il y a des joies, il y a aussi des défis, forcément. Et nos défis actuels, c'est d'arriver à être dans une optique où on ne reste pas dans nos cocons, on continue à aller vers les gens, former des disciples, avancer. Puis c'est d'être adéquat auprès des grimpeurs. Trouver le moment où on peut entrer en discussion et le moment où il faut juste dire, dis, t'aurais pas un mousqueton à vis, j'ai oublié le mien. Juste trouver le bon moment pour ce genre de choses. Et finalement, le gros défi, mais je pense qu'il n'y a pas que les grimpeurs qui ont ce problème, c'est trouver du temps. Et peut-être que trouver nos priorités, comment gérer le temps, ça c'est un défi pour nous qui est juste incroyable, quoi. Si les journées avaient 27 heures, ça serait bien. Malheureusement pas.
Voilà, on a à cœur maintenant de...